Bonjour mesdames et messieurs, merci d'être avec nous pour cette table ronde café littéraire sur la littérature jeunesse. Nous avons le plaisir donc d'avoir avec nous Florence Hinkel, c'est comme ça qu'on dit, oui, excusez-moi, parce que moi je connais, enfin je suis suisse, et puis j'ai tendance à dire les choses de manière allemande, non mais c'est Hinkel, d'accord. Daniel Martinigol, à ma droite, et puis Timothée de Fombelle, tout à gauche, voilà. Alors, le thème de ce café littéraire, c'est « Résistance, la littérature jeunesse, c'est aussi des valeurs ». Alors moi, je comprends pas le titre de cette d'abord, résistance, je comprends pas. Mais surtout, pour moi, il me semble que la littérature jeunesse, c'est surtout des valeurs, c'est pas aussi des valeurs. Alors je voudrais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que c'est des valeurs la littérature jeunesse? Qui veut répondre? Question difficile.
Ça marche, oui. C'est-à-dire que derrière le mot valeur, il y a tellement de notions différentes les unes des autres que c'est difficile de faire le tour du sujet en simplement une question. Disons que qu'est-ce qu'on appelle des valeurs? C'est des choses qui sont positives pour permettre à un adolescent, par exemple, de se développer, de se réaliser en tant que futur individu, donc d'avoir peut-être dans les livres jeunesse qu'il va lire des exemples de situations auxquelles il pourrait peut-être un jour être confronté. Hein. Alors, bon, là, on est dans un festival de l'imaginaire, donc automatiquement, les situations dans lesquelles les héros qui sont dans les romans, qui pour la plus grande majorité sous la bulle, là-bas, sont des héros confrontés à des situations qui, quelque part, logiquement, ne devraient pas être celles auxquelles serait confronté le jeune lecteur adolescent de nos jours, le petit jeune homme ou la petite jeune fille de notre époque contemporaine. Ce sont souvent des mondes décalés, il y a du futur, il y a du passé, il y a de la magie, il y a de la fantaisie, enfin, il y a plein de choses différentes les unes des autres. Et pourtant, je pense que c'est là justement, quel est peut-être le thème du débat, et pourtant il y a aussi quand même des valeurs qui sont développées dans tous ces livres, dans tous ces genres de l'imaginaire. Alors ma foi, je sais pas, on peut peut-être aborder les choses d'une façon plus ponctuelle après, mais il peut y avoir aussi bien des choses qui seront négatives et que le héros devra transcender, et puis ça donnera peut-être l'idée au lecteur adolescent de voir comment lui aussi pourrait être aller au-delà peut-être de ses possibilités. C'est le thème traditionnel de la quête, hein, souvent. En littérature jeunesse, on a très souvent un personnage qui est, mais même dans la littérature générale et adulte, hein, on a un personnage qui est confronté à des difficultés et qui doit franchir toutes ces difficultés pour arriver à, normalement, un nouvel état du monde autour de lui, ou tout du moins de son microcosme. On pourra parler justement de violence, de guerre, de tas de choses, enfin bon, mais on entrera dans le détail après, je pense.
Oui, merci. Alors là vous parlez de littérature adolescente, mais Florence Hinkel, vous avez un public un peu différent aussi, plus jeune, d'après les livres que vous avez publiés. Et je voudrais vous demander à propos des valeurs, justement, est-ce que vous essayez de les faire passer ou de les trier par rapport à l'âge des lecteurs?
Alors, c'est vrai que j'écris pour des lecteurs à partir de 8 ans et aussi jusqu'à, on appelle ça des jeunes adultes. Voilà. Effectivement, bon, on fait un petit peu plus attention peut-être quand on écrit pour les plus petits, et encore que, hein, j'ai envie de dire. La difficulté, peut-être la plus grande difficulté, je ne sais pas si on peut parler de valeur. Moi, ce que j'essaye surtout, c'est d'éviter les stéréotypes. Voilà, pour moi, c'est surtout là. Après, je ne sais pas si on a plus de valeur que, par exemple, si on écrivait en littérature générale pour des adultes. Parce qu'évidemment, même pour les adultes, on ne va pas faire l'apologie de la haine ou ce genre de choses, je pense. Il me semble qu'il y a surtout de ce genre-là au niveau éthique. Après, on essaye, à mon avis, de montrer aux enfants, aux adolescents, le monde tel qu'il est. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Et de ne pas l'édulcorer. Donc, et de ne pas être didactique. Donc, et de ne pas faire passer le message. Voilà, c'est important. Pour moi, c'est ça. Donc, s'il y a valeur, c'est peut-être là. Et on fait passer ces valeurs, effectivement, positives. Parce qu'on s'adresse à des jeunes en devenir qui se construisent, mais malgré tout, ne pas cacher que le monde est tel qu'il est. Montrer tout sombre, mais ne pas le cacher non plus. Et montrer qu'il y a un espoir partout, quel que soit le monde dans lequel on est.
Alors moi, je suis comme vous trois. Je ne sais pas exactement ce que c'est que les valeurs. Il faudrait trouver la personne qui a choisi ce titre et qui se cache quelque part. Mais ce que je sais, c'est comment ne pas faire passer ces valeurs. C'est-à-dire moi, mon souci, c'est plus que rien ne passe, plutôt de savoir... Voilà, je voyais le courant passer en courant sous la pluie tout à l'heure, le courant qui est juste derrière, là, et je me disais, ce flot-là, élan-là, il n'y a que ça qui compte pour ensuite faire passer tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que si dans nos livres, on est pris par le souffle du vent, de l'aventure ou de l'émotion, tout passera, tout ce qui nous fait. Et à ce moment-là, je pense que ce qui nous fait, c'est nos valeurs. J'imagine qu'on a au fond de nous voilà, ce squelette qui nous construit. Mais ça ne passera que si on ne donne pas de leçons, que si on ne veut pas faire passer de message. J'ai vu récemment, je suis tombé sur un bouquin sur la République ou sur les valeurs de la République, des trucs comme ça. Et il y avait dès la dédicace, il y avait une dédicace à un personnage politique actuel, voilà. Et tout de suite, voilà, la personne disait son but, ses objectifs, et je n'avais plus aucune envie de lire la première page. Je voyais où on voulait me mener, et je sais que si c'est le cas aujourd'hui, c'était le cas, j'aurais eu la même réaction à 12, 15 ans, ou même à 7 ans. J'ai un exemplaire à la maison de 8 ans, une fille de 8 ans, et je la vois fonctionner, je vois... mais il y a une maturité dans la capacité à décoder les quand on veut la mener en bateau, voilà. Et ça, c'est peut-être ça qui fait la particularité de la littérature jeunesse, c'est que plus que jamais, à cause aussi de ce faisceau de tentations qui sont autour du jeune lecteur, d'autres activités qui se proposent, du copain qui appelle en bas et qui dit de descendre, de la console qui fait niap niap dans un coin du salon, de tout ça, il faut l'emmener avec nous. Et là, c'est gagné. S'il est avec nous, c'est gagné. Et qu'on ait quelqu'un de pas trop pourri, c'est gagné.
Je voyais où on voulait me mener. Je trouve ça intéressant. En fait, en somme... Je ne sais pas comment interpréter la chose, mais écrire de la littérature jeunesse, alors ça n'est pas donner des messages, ça n'est pas donner une direction. Enfin, j'ai un peu de peine à exprimer la chose, mais vous écrivez pas pour des publics identiques, mais pour les adolescents. Donc, il y a quand même un message à leur donner, une quête, le sens de la quête de vaincre les difficultés. Il y a quand même une idée au départ, quand même, quand on écrit un livre.
Moi, je suis persuadé. Oui, il y a une idée, c'est sûr, mais moi, je suis persuadé que si je réfléchissais trop à tout ça, j'écrirais pas le livre. Je m'embarque aussi à l'aventure, en fait, à chaque fois que je commence un roman. Enfin, c'est aussi. Ça m'est arrivé très souvent de dire, j'écris les livres que j'aurais aimé lire quand j'avais cet âge-là, parce qu'il y en avait très peu. Bon, c'est une situation particulière, moi, ce que je fais, puisque. C'est de la science-fiction, du space-opéra, souvent. Et c'est vrai que des femmes de ma génération, il n'y en a pas beaucoup, qui lisaient de la science-fiction à l'adolescence. Moi, tout le monde a essayé de me décourager d'en lire. Tout le monde me disait, il faut pas. Enfin, j'ai eu des profs de français qui m'ont dit, il faut surtout pas lire ça, ça va vous empoisonner l'esprit. Et donc, ça ne m'a pas empêché de continuer. Justement, c'est peut-être ça qui est intéressant à savoir sur la littérature jeunesse. C'est que si on veut trop baliser le terrain aux jeunes en lui disant, voilà, il faut lire ça, plutôt que ça, plutôt que ça. Je le sais, j'ai quand même été prof de français pendant 37 ans. Donc, je sais de quoi je parle quand je parle de conseils de lecture. C'est épouvantable. Enfin, je veux dire, un gamin, il n'a pas du tout envie, quelque part, qu'on lui dise... Sauf quand il y a un travail vraiment à faire. Mais moi, je privilégiais justement dans mon enseignement la lecture plaisir parce que c'est tellement bien d'amener une classe dans un CDI et de dire aux gamins, alors voilà, on est là pour une heure, esbaudissez-vous dans tous les sens et choisissez des bouquins et lisez-les. Et surtout, ne les remettez pas en rayon parce que la documentaliste veut qu'ils soient rangés comme il faut. Donc, vous les remettez dans une grande caisse et puis, etc. Parce que je participais quand même aussi au travail de mes collègues. Avoir les enfants qui mettent les livres n'importe où, c'est une catastrophe. Et les gamins, ils adoraient ça. Il fallait des sièges, il fallait des coussins, il fallait des matelas. Et puis, ils étaient là avec les bouquins. Et c'est comme ça qu'ils s'embarquaient dans la lecture. C'est pas du tout en leur disant... comme disait Timothée, voilà, j'ai écrit ce livre pour vous faire comprendre que. Hein, et ben non, ils n'en ont pas envie. Quoi. Et c'est pour ça que les quatrièmes de couverture sont souvent très importants aussi. Parce qu'un quatrième de couverture peut être une véritable peau de banane pour un roman.
J'ai lu quelque part sur Internet, Timothée Tourmel, que la littérature jeunesse est le lieu où j'ai trouvé ma liberté. Vous avez dû dire ça dans une interview une fois. Alors, c'est intéressant parce que ça rejoint ce que vous dites. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi c'est le lieu où vous avez trouvé votre liberté ?
Parce que c'est une littérature qui n'oblige pas à choisir le genre. Le genre, est-ce que Toby Lones que je vois là, Est-ce que c'est de la fable philosophique? Est-ce que c'est du roman d'aventure, du roman fantastique? Est-ce que c'est du roman sentimental? Parce que j'espère bien que je tire une petite larme à un moment ou à un autre. Et voilà. Et de fait, cette liberté hors de tous les genres, je l'ai vraiment trouvé dans la littérature jeunesse, qui pour moi est une sorte de prétexte à raconter mes histoires. Un lieu, voyez, effectivement, un lieu de liberté. J'avais bien raison de dire ça. Un lieu de liberté et de. Oui, on cherche la terre fertile dans laquelle on va pouvoir exister, faire vivre nos petites ou nos grandes histoires.
Florence Hinkel, pour vous aussi, c'est un espace de liberté, l'écriture de romans, enfin de récits jeunesse?
Oui, ah ben totalement, oui, effectivement. Bon, moi, j'ai même pas pensé à écrire pour les adultes, alors ça m'a même pas effleuré l'esprit. Faut dire qu'à l'origine, je suis professeur des écoles, donc baignant dans ce monde de l'enfance, ça m'est venu naturellement. Et puis bon, je voyais toute leur imagination, comme disait Daniel aussi, ce désir de lire, de s'embarquer dans des histoires. Effectivement, ben ouais, ce qui les emporte le plus, c'est les histoires d'aventure, les histoires où il se passe plein de choses qui ne sont pas, encore une fois, des messages. D'ailleurs, il y a une phrase qui me revient de Hemingway, qui ont demandé toujours, ça l'énervait, quel message il faisait passer dans ses livres. Il disait, si vous voulez des messages, allez à la poste. Voilà, je ne suis pas facteur. Donc, les messages, voilà, moi j'aime bien cette phrase, c'est pour les facteurs ou pour les prophètes, mais bon, pas pour les écrivains, à mon avis, quoi. Voilà.
Mais pourtant, on ne peut pas leur dire n'importe quoi aux enfants. Comment vous triez?
Mais on ne peut pas dire n'importe quoi non plus aux adultes, à mon avis. Hein. Donc, c'est la même chose, je pense. Hein. Il n'y a pas tant de différence que ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je suis vraiment d'accord. Alors, moi, il n'y a pas déjà... Il n'y a pas de tri. C'est-à-dire que c'est pas... C'est-à-dire que si j'avais une histoire qui n'était pas pour les jeunes lecteurs, j'écrirais pour les adultes. Je suis sûr que je trouverais justement mon terreau fertile ailleurs, chez un éditeur. Voilà. Mais si j'écris ces histoires pour les jeunes lecteurs et en fait un peu pour tout le monde à vrai dire, c'est que c'est là que cette histoire pourra le mieux être racontée, quoi. C'est dans ce monde de liberté là que ça peut être raconté. Mais j'ai pas l'impression à aucun moment de me retenir, de m'empêcher. Si je veux faire la grande scène érotique de ma vie, bah, je vais écrire un autre livre ailleurs, quoi. Voilà, je me retiens pas dans la pudeur ou dans la violence. Dans la violence, je suis tombé sur un site là, sur Amazon Amérique, enfin des États-Unis, le site Amazon. Il y a des critiques de Toby Lolness. Par des lecteurs, et il y a des avertissements, scènes de nudité infantile, torture. C'est des lecteurs du Midwest, vraiment bien, bien, bien réactionnaires. Et je trouve ça incroyable parce que il faut avoir un esprit incroyablement mal tourné pour voir, par exemple, dans la rencontre entre Toby et Elisha, une scène perverse, alors que justement. C'est le summum de la pureté totalement et cette innocence là qui est je crois vraiment que on n'a pas à se retenir dans alors peut-être moi mes petites règles d'écriture pour quand en me disant que je veux aussi embarquer les jeunes lecteurs, c'est peut-être une forme de clarté dans tous les sens du terme, d'ailleurs clarté dans la manière de raconter, mais qui là aussi, je ne me prive pas des mots compliqués. De toute façon, j'ai aucune envie d'utiliser un mot, ou alors je l'utilise comme un joyau, je l'utilise comme quelque chose qui est là pour briller. Mais un mot plus compliqué qu'un autre, s'il y en a un plus simple, j'utilise le plus simple. La clarté aussi, peut-être quand même dans le petit rayon de lumière là, au bout du couloir, alors qu'on peut emmener dans les ténèbres, dans les choses difficiles, mais un petit coup de lumière quand même. Je me dis. Quitte à avoir 14 ans, au moins ne détruisons pas complètement tous les espoirs. Et bon, là, j'ai une pièce qui va être jouée à l'automne à Paris, qui est une pièce très sombre, qui est une pièce adulte. Je pense que cette pièce-là, c'est pour un public adulte parce que, pour le coup, l'espérance est un peu verrouillée au bout. Mais sinon, les nuances sont très, très légères.
Florence Hinkel a dit tout à l'heure qu'elle n'écrivait pas pour des adultes. Vous écrivez aussi pour les adultes, du théâtre notamment.
Oui, oui. Voilà, le théâtre. Mais bizarrement, j'ai un peu scindé, mais c'est malgré moi. Mon théâtre est plutôt pour les adultes ou pour tout public, on va dire. Et puis mes romans sont pour la jeunesse. Mais encore une fois, je remarque dans certains. Mes livres sont beaucoup traduits et dans certains endroits, ils sont très crossover, comme disent les Anglais. Ils sont lus, même les couvertures, on ne sait plus trop si c'est jeunesse ou pas jeunesse. Mmh. Et je pense qu'il y a, il y a aussi une culture française qui est plus que des Harry Potter ou des gens comme ça. On a un peu commencé à on a plus honte de lire des livres jeunesse dans le métro à Paris. Mmh. Je pense que ça change un peu.
Daniel Martinigol, vous avez aussi écrit des livres pour adultes ?
Non, 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 j'ai...
Ou pour jeunes adultes, alors ?
J'ai publié une nouvelle seulement pour adultes. Mais bon, mes livres montent en âge, si j'ose dire. Je me rends compte que je suis un petit peu tentée par des choses peut-être plus compliquées au niveau de l'univers, de la confrontation justement du héros à des problématiques, mais je pense qu'il y a une chose intéressante dans ce que disait Timothée, c'est que les avis négatifs là sur ces livres, ce sont justement des adultes. Ouais, jamais un lectorat adolescent ne fera de commentaires de ce genre-là. Je pense qu'ils ont une perméabilité bien plus importante à tout ce qui est publié, et puis. C'est vrai que ces âges que sont pratiquement obligés de mettre les éditeurs sur certaines collections jeunesse, disons-le, sont bien plus souvent des argumentaires commerciaux pour que les représentants et puis les libraires sachent dans quelle étagère classer le bouquin qu'autre chose. Hein. C'est bien dommage. Mais j'ai essayé d'écrire pour adultes. J'essaie d'écrire pour adultes. Et c'est... À chaque fois, je reviens à la jeunesse. Je suis peut-être finalement comme Florence. Je ne suis pas faite pour écrire pour adultes. Parce que, je ne sais pas, c'est un univers tellement moins angoissant pour moi. Enfin, c'est écrire pour les adultes, c'est plus anxiogène. Je me dis comment ça va être reçu, comment les adultes vont prendre mon histoire. Alors que je sais qu'avec un lectorat jeune, ça rentre facilement dans leur petite tête. Ils en prennent, ils en laissent, ils font tout un tri automatique de ce qu'on leur propose. C'est pour ça que je leur souligne souvent, d'ailleurs, quand ils me disent qu'ils n'aiment pas lire, parce que c'est arrivé très fréquemment que j'ai des enfants devant moi qui viennent me dire avec presque agressivité « J'ai lu votre livre jusqu'au bout ». Alors donc on sent là une espèce de colère sourde. Alors je dis « Tu n'es pas lecteur ?»« Ben non ». Tu n'aimes pas lire ? Ben non. Alors je dis oui, mais en fait, tu as quand même lu le mien jusqu'au bout. Ben oui. Alors donc, je sens que j'ai tellement forcé la dose là en les piégeant qu'ils m'en veulent. Et ça, pour moi, c'est des victoires extraordinaires, ce genre de choses. Hein. Et donc, je leur explique souvent que s'ils n'aiment pas lire, c'est justement parce qu'ils n'ont peut-être jamais trouvé encore quelque chose qui va les piéger, quoi. Et qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans la tête ce qu'on leur a appris depuis qu'ils sont tout petits, à savoir qu'il faut lire tous les mots, toutes les lignes, toutes les pages jusqu'au bout, et qu'on a parfaitement le droit de sauter à pieds joints sur un passage qu'on comprend mal ou qui se forme mal dans la tête, et voilà, et de continuer. Et c'est un lectorat qui est tellement formidable. Enfin, je veux dire, moi, les enfants arrivent devant vous en disant oh, c'est génial. Mais quel adulte va s'approcher d'un auteur adulte en disant « Ah, votre bouquin, c'est génial !» Et les adultes n'osent pas dire les choses
tout à
comme
fait.
Les enfants.
Et ils arrivent d'ailleurs, ils disent « Oui, mon fils a beaucoup aimé, beaucoup aimé. » Et puis petit à petit, on comprend. Et c'est juste au moment de la dédicace qu'on comprend que la mère ou le père ont lu aussi, veulent la dédicace pour eux, en fait. Et voilà, mais c'est vraiment un aveu. Je vous avoue, même pour moi, c'est lisible. Enfin, il y a une sorte alors que, c'est très flatteur pour eux d'être capable de lire nos livres.
Et c'est flatteur pour nous aussi, parce que je pense que c'est peut-être là justement que sont les valeurs. C'est-à-dire que si on écrit des livres qui sont capables de réunir toute une famille dans une discussion, ça, c'est super. Et vraiment, voilà, là, on a les valeurs, parce que c'est peut-être la première des valeurs à conserver, c'est celle de la communication vraiment d'individu à individu et des échanges, quoi, de la possibilité des échanges. Dans une société où on a l'impression qu'il y a plein de choses qui nous obligent presque à nous refermer sur nous-mêmes. Enfin, moi, j'ai mangé au restaurant il n'y a pas longtemps à côté d'une table où il y avait 6 jeunes gens, 3 couples. Ils étaient tous les 6 avec leur téléphone portable. Ils sont restés pendant presque un quart d'heure sans s'adresser la parole. J'hallucine, moi. Alors ça pour moi, c'est de la science-fiction. Alors, vraiment, mes bouquins, non, mais ça, oui.
Pour rester encore dans ce domaine des valeurs, est-ce que vous pensez, comme La Fontaine, qu'il faille amuser pour instruire, distraire pour instruire ?
C'est-à-dire, distraire. Moi, je suis pas très adepte de la distraction dans le sens simplement s'évader. Je trouve que on doit plutôt être pas dans la rétraction, mais je sais pas comment appeler ça, dans le fait de se recentrer. Au contraire, la lecture, ça doit être un recentrement sur soi plutôt qu'un truc pour voilà. Mais en revanche, on doit embarquer, c'est-à-dire on doit prendre à la gorge le lecteur. Et là, pour le coup, le jeune lecteur, il faut l'agripper bien fort et très vite, hein, parce que moi c'est vraiment, mais c'est peut-être aussi parce, venant du théâtre, j'ai cette obsession de la salle vide qui est d'avoir vu des salles se vider au théâtre, d'avoir vu et ça, mais moi je suis là, mais je ne cesse de faire des promesses dans les premières pages que je serai obligé de tenir après. C'est une sorte de, mais il faudrait que je me soigne. Enfin, franchement, mes premiers, je pense à Van Gogh, qui est ma deuxième série après Toby, là, en 2 volumes aussi. Je me souviens en écrivant le premier chapitre, j'embarquais les gens dans des... Il y avait plein de gens qui m'avaient suivi sur Toby. Je me disais, je veux vraiment les emmener avec moi. Je les emmenais bien ailleurs avec une sorte de séminariste dans les années 30. Pas franchement le sujet sexy de l'époque. Et voilà. Et donc, j'ai chargé la mule dans les premiers chapitres. Et tant pis, si je les emmène, c'est tout ce qui compte.
Alors, Timothée de Fombelle fait des promesses qu'il doit tenir par la suite. Est-ce que vous faites la même chose, Florence ?
Alors, je suis assez d'accord. Le mot distraire me gêne aussi, pas mal. Hein. Je crois que c'est tout le contraire de la distraction. Parce que, bon, la distraction, bon, c'est la télévision, c'est vraiment c'est sortir de soi-même, mais voilà, sans recentrer, effectivement. Donc, distraire pour instruire, non, je dirais. Et effectivement, il faut... exactement comme disait Timothée, accrocher le lecteur et essayer, alors l'instruire, je ne sais pas, mais d'une certaine façon, si, de toute façon, puisque si on essaie de raconter des histoires assez universelles, hein, c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, hein, qui parlent au plus de monde possible. Donc, c'est instruire dans ce sens-là, c'est-à-dire parler du monde et parler d'un monde intérieur qui parlerait au maximum de gens. Voilà, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Donc oui, le contraire de la distraction, au final.
Alors, je vais chipoter un peu, mais il y a un double sens à distraire. Oui, c'est ça le problème. Distraire, c'est aussi attirer l'attention vers autre chose, oui. En fait. Et donc, peut-être que La Fontaine pensait à ça, c'est-à-dire distraire en justement décalant un petit peu les choses pour instruire d'une autre manière. C'était un petit peu ça qu'il voulait faire dans ses fables, autant que je sache. Il avait comme charge d'instruire, entre guillemets, le jeune dauphin. Donc, au lieu de présenter les nobles de la cour... présenter ça avec des animaux, c'était une forme de distraction à double sens, justement, ouais. Amuser et en même temps attirer l'attention, décaler l'attention. Et là, peut-être qu'on pourrait le rejoindre un peu, parce que si, effectivement, comme je le disais, principalement dans la littérature de l'imaginaire, on embarque notre jeune lecteur dans un autre univers que son quotidien, on va le ramener peut-être mieux à son quotidien à la fin, après une démarche. Ils réfléchissent tous à un moment ou à un autre, quand même, quand on pousse... Enfin, moi, j'étais comme ça. Hein, je pense qu'ils sont toujours pareils, de toute façon. J'ai toujours pensé que les ados auxquels je m'adresse ne sont pas si différents de l'adolescente que j'étais. Quand on pose un bouquin, on reprend pied avec notre réalité. Moi, j'adorais rester, justement, dans cette espèce de flou artistique, cette espèce d'état de rêve, etc., dans lequel m'avait entraîné un livre. Alors, les tout-petits, quand on leur raconte des contes, ils demandent qu'on leur raconte 25 fois le même conte, parce que, justement, ils aiment rester dans l'univers qu'ils ont aimé. Et l'adolescent, il le fait un petit peu de lui-même. Enfin, il reste dans cet univers-là. Et là... Quand il va reprendre pied avec la réalité, il aura acquis quelque chose. Il aura peut-être pas obligatoirement de l'instruction, mais il aura appris à regarder peut-être différemment les choses. Et je pense que si on arrive à obtenir ça dans nos livres, c'est déjà formidable. Ouais. C'est ouvrir les yeux de nos jeunes lecteurs sur des différences... qu'ils vont sentir d'une façon plus perceptible entre ce qu'ils avaient comme conception peut-être du monde avant de lire nos livres, et puis comme on arrive à les enrichir, justement là on instruit d'une certaine façon. Mais bon, si on pensait à tout ça au moment où on allume l'ordinateur, où on prend la feuille de papier, on n'écrirait jamais rien. Alors là, on est bien d'accord, on en revient à ce qu'on disait. Enfin, je ne sais pas pour Florence et Timothée, mais moi, ça, c'est des belles analyses qu'on fait dans les débats, pour les festivals. Mais au moment où on écrit le livre, on a envie d'écrire un bouquin, on est passionné nous-mêmes par notre histoire, on est angoissé aussi, comme le soulignait un petit peu Timothée. On se dit, il y a pas mal de gens qu'on va embarquer dans le même bateau, on espère quand même qu'on va pas le couler. Mais c'est un défi formidable, en fait. C'est pour ça qu'on recommence, hein, ouais. qu'on en a fait un, puis qu'on en fait d'autres.
Et de temps en temps, on a quelque chose qu'on a vraiment pour le coup envie de faire passer. Ça peut arriver. Un truc, je sais pas, je pensais à une lectrice là, qui m'a écrit, qui m'a dit « Je vous remercierai jamais assez d'avoir utilisé le verbe « marcoter ». Je me souviens plus, mais « marcoter », c'est... Et or, c'est vrai, je me souviens... voilà, moi je jardine beaucoup et le marcotage, je trouve ça assez miraculeux, ces petites branches qu'on replante, qu'on laisse pousser dans la terre et qui vont pouvoir prendre leur indépendance. C'est un symbole. Et je pense aussi là un passage que j'ai barré plusieurs fois, puisque j'ai Toby sous les yeux, ça me rappelle ce passage-là. J'avais barré, puis je l'ai remis, je l'ai enlevé, parce que pour le coup, c'était de la pure leçon de morale, pour le coup. Voilà. C'était un moment où mon personnage, Toby, perd sa grand-mère, qui est un personnage infect et vraiment... Que Toby ne regrette pas du tout, et a priori ses parents ne regrettent pas non plus cette grand-mère, sauf qu'il voit sa mère pleurer. Et il ne comprend pas du tout pourquoi elle pleure, et il voit pas pourquoi, alors que c'est juste sa grand-mère, son atroce grand-mère qui est morte. Et là, je me souviens avoir écrit... voilà, il veut essayer de quand même consoler sa mère. Ce jour-là, Toby comprit, en regardant Maya, que quand on pleure quelqu'un, on pleure, Maya c'est sa mère, on pleure aussi ce qu'il ne nous a pas donné. Maya pleurait la mère qu'elle n'avait pas eue. Désormais, c'était certain, une mère idéale ne traverserait pas sa vie. C'est pour cela qu'elle sanglotait. Comme si jusqu'au bout on garde l'espoir d'un geste ou d'un mot qui rattraperait tout. Comme si la mort tue ce geste qui n'a pas été fait, ou ce mot qui n'a jamais été dit. Alors voilà, franchement, lourdingue, quoi. Enfin, là, j'y vais carrément. Là, je tartine. Mais voilà, je sais que c'est quelque chose que j'avais vécu, enfin, dans mon entourage, voilà, et je me souviens, mais dis non, allez, je le mets. Alors là, il faut avoir avant suffisamment avoir son lecteur sur ses épaules, de manière bien sûre, pour pouvoir faire ce genre de parenthèse là.
Je remarque une différence entre Florence Hinkel et Daniel Martinigol, parce que Florence, vous avez dit tout à l'heure au début du débat que le but c'était quand même de montrer la réalité ou d'inscrire les choses dans le vécu, dans la vie. Et Daniel, c'est partir dans le rêve, dans l'imaginaire total, enfin voilà. Et pourtant, c'est les deux publics, enfin, c'est tout pour des enfants ou des adolescents. Vous concevez les choses comment? Si on revient sur le thème des valeurs, quelque part, enfin voilà.
Alors déjà, il faut savoir que moi, je suis toute nouvelle en SF. Hein. C'est mon premier et seul livre de science-fiction, Théa pour l'éternité. D'accord. Et jusqu'à présent, je faisais ce qu'on appelle des récits de vie quotidienne. Donc moi, ce que j'aime faire... au départ, ce que j'aime toujours faire, c'est vraiment des récits ancrés dans le quotidien. J'adore ça. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est montrer l'extraordinaire dans le quotidien, parce qu'il existe, et les lumières dans le quotidien. Donc du coup, je me suis vraiment, on peut dire, éclatée en science-fiction, parce que là, du coup, c'est de l'anticipation, donc ça pourrait être dans 10-15 ans, mais pas très éloigné, donc c'est encore ancré dans le quotidien, mais j'imagine, et si, voilà, donc dans ce cas-là, et si on découvrait comment devenir immortel, voilà. Donc là, paf, il y a tout plein de choses qui se déploient, tout en restant dans un univers quotidien, voilà. Je sais plus la question.
c'était j'essayais de poser le quotidien et le non quotidien ou le, voilà, le ouais. Alors donc on est dans un futur à court terme, oui. Mais là avec Charlex on est dans un... on est plus loin parce que c'est une personne qui
enfin... là c'est la question de l'humanité en fait, hein. C'est une Charlex, ça veut dire cyberhumaine améliorée pour résister dans des lieux extraterrestres. C'est une jeune fille qui est envoyée en mission sur une planète lointaine. Et puis, elle est blessée, elle est attaquée, en fait. On ne sait pas trop comment ça se passe. On découvrira ça au cours du roman. Mais elle est blessée et elle perd une partie de sa mémoire. Ce qui fait qu'elle atterrit sur cette planète en n'ayant gardé que son instinct de guerrière, mais sans savoir pourquoi elle doit le mettre en action. Elle ne connaît plus exactement sa mission. Donc, elle est assistée de deux petits êtres nanotechnologiques que j'ai appelées des nanêtres d'ailleurs, et qui sont un petit garçon et un chien. Ce qui va, au départ, elle se demande bien comment elle va pouvoir mener une mission guerrière à nanti d'un gosse et d'un chien, mais et finalement, elle va aller de découverte en découverte, elle va gagner petit à petit en humanité, évidemment, en se trouvant confrontée à la réalité des choses et découvrir que finalement elle a été conditionnée et puis qu'elle pourrait fort bien ne pas faire ce qu'on lui a demandé de faire. En fait, hein, c'est le triomphe du choix individuel sur le conditionnement. Mais là, on est vraiment effectivement complètement dans du space op. Hein. Enfin, c'est du planète opéra, comme on dit maintenant. Parce qu'alors, on fait tellement de sous-parties de sous-parties que là, comme ça se passe uniquement sur une planète, c'est ce qu'on appelle du planète opéra. Mais on en revient quand même à une question contemporaine. Il y a un moment donné où elle interroge... Enfin, elle dit, regarde comme je suis, j'ai un cœur amélioré, j'ai un foie amélioré, j'ai des organes qui sont hyper puissants, etc. Et je suis l'aboutissement de tout ce que les transhumanistes ont espéré faire. Ça a commencé par le pacemaker. Voilà. Et c'est vrai que ça commence par le pacemaker. Et puis, on est ensuite dans les neuroprothèses, etc. Et il y en a déjà qui existent, il faut le savoir aussi. Et dans mes bouquins, souvent, je pousse le curseur un petit peu plus loin, justement, pour ramener peut-être mon jeune lecteur au moment où il va reprendre, comme je le disais tout à l'heure, contact avec son quotidien, de savoir que oui, on va poser un pacemaker à son grand-père qui a des problèmes cardiaques, eh bien, c'est déjà une première étape d'une intrusion technologique dans le corps humain, mais pour aider à... pour améliorer, etc. Et qu'il ne faudra peut-être pas, dans le futur, jeter le bébé avec l'eau du bain et obligatoirement condamner tout ce qui est qui relève du transhumanisme. Mais si mon petit adolescent ou ma petite adolescente, parce que j'espère m'adresser autant aux filles qu'aux garçons, garde ce... Je me fiche éperdument qu'il se rappelle de mon nom et du roman, hein, mais garde cette réaction à dire il faut contrôler tout ça, il faut qu'on reste vigilant sur toutes ces choses-là, ben c'est bien, quoi, voilà. Mais c'est presque le prolongement, en fait, de ce que qu'évoque Florence avec son livre, à savoir qu'on est dans des problématiques différentes. Là, c'est l'immortalité, moi, c'est le transhumanisme. Mais ça ramène toujours effectivement à la prise de conscience du jeune lecteur à travers l'histoire qu'on leur propose. On boucle la boucle, comme j'ai dit au début, pour qu'ils se construisent en tant qu'individus.
Mais c'est intéressant parce qu'on a commencé par dire non, pas de valeur, non, bon, alors là, loin de nous, l'idée de mettre des valeurs dans nos livres. Et qu'en fait, on y revient, mais tout simplement parce que le mot qu'on a aussi évincé dès le début dans le thème de la discussion, qui était le mot résistance, en fait, dans ce que tu racontes, Daniel, c'est dans la démarche même de l'héroïne, c'est dans la démarche même, elle va... Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ce thème de la résistance, c'est tout simplement un thème qui permet de construire une histoire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de résistance, il y a le simple flot du temps qui passe et des événements qui nous coulent dessus. Et pour que ça devienne une histoire, il faut qu'il y ait des résistances, il faut qu'il y ait des cailloux dans les engrenages, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tout d'un coup se rend compte qu'il est jeté dans un voilà dans cette machine.
Et si vous me permettez de prendre une seconde, dans mon roman, il y a une postface. Il s'est trouvé que pendant que j'étais en train d'écrire Charlex, j'ai vu un film qui s'appelle Un monde sans humain. C'est une production qui était passée sur Arte. Et c'est un film que je conseille à tout le monde de regarder. On peut le regarder sur Internet sans problème. C'est assez long, mais c'est spectaculaire. Ça part du principe que l'humanité disparaît instantanément d'une seconde à l'autre. Il n'y a absolument plus aucun humain sur Terre. Et le film essaie d'envisager les conséquences depuis le chat qui va pas pouvoir sortir de la pièce où il est enfermé jusqu'aux centrales nucléaires qui vont péter. Enfin, c'est vraiment un film très très intéressant à voir. Et à la fin du film, il y a un philosophe qui parle, qui s'appelle Pierre Dardot, J'ai essayé de le contacter, j'ai essayé de passer par son éditeur, j'ai jamais réussi à avoir de réponse. Mais bon, avec mon éditeur, on a quand même décidé de mettre, de transcrire les paroles de Pierre Dardot à la fin de Charlex. Alors voilà ce qu'il dit. Un monde sans humain dans lequel il y aurait des cyborgs ou des individus qui seraient des hybrides ou des chimères, qui seraient à la fois des machines et des restes, des ersatz d'humains, je pense que ce ne serait pas un monde. Il faut rendre cette contradiction-là visible et il faut la rendre insupportable. C'est le seul moyen, me semble-t-il, de nourrir justement l'esprit de la résistance et l'attitude de la résistance. Et c'est après avoir entendu ces paroles que je me suis dit que c'était ce que j'essayais de faire dans presque peut-être bien dans tous mes bouquins, mais en particulier dans celui-là. Et moi, j'espère que si quelqu'un connaît M. Dardot, il lui dira que j'ai transcrit ses paroles en postface de mon livre, mais c'est vraiment une très belle remarque, et on en revient à ce que tu disais. Quoi. C'est vraiment cette idée de résistance. Parce que voilà, on revient aux valeurs, en fait.
Alors finalement, ce qui est intéressant, c'est que le titre de ce café littéraire, Résistance, la littérature jeunesse, c'est aussi des valeurs, semble tenir la route. Quand on analyse un peu mieux. Est-ce que dans la salle, vous auriez des questions à poser aux auteurs ici présents ? Oui ?
Oui, justement par rapport à la littérature jeunesse, comment est-ce que vous avez justement par rapport au débat, à un roman comme le Hunger Games, justement dans le but, c'est de tuer la serre, peut-être même de l'assassiner, parce qu'on va réfléchir à la façon dont on va tuer, et que le véritable ennemi n'est pas celui qu'on veut tuer, c'est celui qui organise les jeux.
Je ne connais pas non plus. Oui, oui.
Oui, voilà. C'est ce que j'allais dire. Le but, c'est de survivre.
Comment ?
Oui, oui. Je pense qu'il y a une chose très importante dans Hunger Games, enfin en tout cas moi, je n'ai pas lu les livres, mais j'ai vu le film, je n'ai vu que le premier, c'est le fait que Katis prend la place de sa jeune sœur. Et ça, c'est très important, et je pense dans l'hypothèse où vous parliez tout de suite de la résistance aussi, au niveau historique, il y a cette démarche de protéger des plus faibles. Si c'est au prix du sacrifice de vie, d'autres vies, c'est pas pour soi, seulement pour soi. Dans le personnage de Katis, il y a cette implication, cette noblesse en fait d'une adolescente qui se dit qu'elle ne va pas laisser sa petite sœur aller au massacre et qu'elle prend sa place. Alors là, il y a autant de cas de figure que de lecteurs, monsieur. C'est-à-dire que vous aurez des enfants qui pourront... Mais on l'a dit à un moment donné, ils ne se font pas bourrer le mou du tout, les gamins. Hein, faut pas croire. Hein,
moi, je peux donner le cas de ma fille, voilà, qui a 12 ans, qui elle l'a lu l'année dernière, donc à 11 ans. Et c'est les premiers livres qu'elle lisait en entier. C'est pas une grande lectrice. Donc déjà, fabuleux. Et après, je lui ai demandé, mais alors qu'est-ce qui t'a plu là-dedans ? Elle m'a dit... Ce qui m'a plu, c'est que je me suis rendu compte que finalement ma vie à moi, elle était bien, et que voilà, que ça pouvait être bien pire, et que j'ai de la chance de vivre dans un monde comme ça. Donc c'est ce qu'elle a réussi à restituer. Donc je pense qu'elle a compris quand même des choses, bon, qu'elle n'a pas forcément exprimées. Et ayant vu les films, moi j'ai pas lu le livre, hein, j'ai vu le film. Je trouve quand même que je pense que les jeunes peuvent faire la part des choses. C'était assez bien fait. Si c'était fidèle au livre. il m'a semblé. Hein. Oui. Voilà. Oui. Tout à fait. Ah oui, il y a plein, plein de parallèles possibles. Hein.
C'est un roman américain. Je me suis toujours demandé si un livre comme ça avait été proposé à un éditeur français, s'il aurait été pris en France. Est-ce qu'on aurait écrit un livre comme ça ?
Oh, il y en a certainement qui doivent ressembler à ce genre de choses, mais... Je ne sais pas.
Vous savez, c'est une telle quantité de production aussi qu'on ne peut pas tout lire. Et... Enfin, moi, personnellement, je n'aurais pas écrit Hunger Games. Bon. Mais c'est... C'est pas... Bon, je ne l'ai pas lu. Hein. J'ai lu tous les Harry Potter, en revanche. Hein, mais...
Et là, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a comme apologie de la sorcellerie là-dedans. Enfin, franchement, mais bon...
Ça me dépasse un peu.
Moi, mais je bon, dis c'est... pourquoi pas, pourquoi pas. J'aurais peut-être écrit Hunger Games. Moi, enfin, je ne l'ai pas lu en même temps. Je ne sais pas du tout le niveau d'écrit du style, de l'écriture, etc. Mais oui, c'est bien écrit. Mais au niveau de l'histoire, ce que j'en ai vu du film, hein, c'était que c'est que le premier épisode. Hein, je n'ai pas vu la suite, donc je ne sais pas comment ça se termine. Mais ce que j'en ai vu, ça ne m'a pas paru du tout scandaleux. Au contraire, oui, c'est un peu la critique de la télé-réalité, de tout ça. Pourquoi pas ? Moi, j'ai pas trouvé ça mauvais.
C'est pas un aspect scandaleux qui fait que j'aurais, je dis que je l'aurais pas écrit, mais c'est vraiment parce que on est, c'est dans une catégorie de problématiques imaginaires que moi je n'aurais pas pu envisager, parce que ça se, c'est vraiment une. Au départ, c'est sur le thème de la faim. Hein, faut pas oublier que c'est pour que les gens survivent au niveau de leur alimentation, hein, et bon, c'est des problématiques qui me sont un peu étrangères, mais bon.
Eh bien, moi, je crois que nous allons conclure ce café littéraire.
Car les Américains n'ont pas les mêmes valeurs que nous.
Les Américains n'ont pas les mêmes valeurs. Les adultes, visiblement, n'ont pas les mêmes valeurs que les enfants ou les adolescents. La discussion, elle reste ouverte sur les valeurs. Et moi, je vous invite à rejoindre nos auteurs sous la bulle du livre si vous désirez en savoir un peu plus sur leur œuvre. Et je vous remercie d'avoir participé et je vous remercie d'avoir animé ce débat.